Et cet après-midi, j'ai choisi de méditer avec vous sur quelques versets du psaume 30. Donc, dans le livre des psaumes, nous allons prendre le 30e, qui est un psaume, un cantique, qui a été composé par David, le chantre de l'Éternel, mais aussi le roi David, en vue de la dédicace de la maison. C'est ce qui nous est dit en introduction de ce psaume. Et voici donc ce qu'il exprimait dans ce psaume, tout au moins au début. « Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. » Et j'arrêterai là ma lecture cet après-midi, parce que il y a déjà dans ces quelques phrases tellement de choses qu'on peut méditer ensemble cet après-midi. Seigneur, bénis cette parole. Tu puisses, à travers ces quelques mots que cet homme en son temps a exprimés devant ta face pour te célébrer et te rendre gloire de ce que tu avais fait un jour dans sa vie, que ces mots puissent être saisis maintenant par le Saint-Esprit et venir en aide à quelqu'un au milieu de nous que tu as amené dans ce lieu cet après-midi, qui est en recherche, qui peut-être est aussi dans une phase de sa vie tellement sombre, tellement ténébreuse, comme un soir. Et j'aimerais, Seigneur, que tu puisses lui parler aussi cet après-midi de ce matin d'allégresse, que tu puisses par ton bon esprit maintenant parler à son cœur, comme tu sais si bien le faire, à travers les faibles moyens que nous sommes, Seigneur. Veuille maintenant te révéler à ce cœur qui en a besoin. Amen. Voilà donc ce texte, comme vous l'avez lu avec moi, exprime la joie de quelqu'un qui a connu à un moment donné un abattement dans sa vie, au point que, il l'est dit dans ce texte, qu'il était presque aux portes du séjour des morts. Et à ce moment-là, le Seigneur a fait quelque chose pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il dit qu'il a crié vers Dieu. Il ne faut jamais dire « Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau » parce qu'il arrive parfois où on a tellement soif qu'on sera bien obligé d'y boire. Et un jour, j'ai dit à ma sœur qui me parlait, qui essayait de me convaincre que j'avais besoin de Jésus-Christ dans ma vie, j'ai dit à ma sœur, « Eh bien, pour toi, je veux bien croire que ça t'est utile, parce qu'effectivement, elle avait passé par un moment difficile, elle avait besoin de cela, et je lui ai dit, « Donc, je veux bien croire que pour toi, c'est utile, mais pour moi, je n'ai pas besoin de cela pour vivre et pour être heureux. » Eh bien, pratiquement une année plus tard, j'étais dans un lieu comme celui-ci, bien que ça soit un petit peu plus spartiate, puisque c'était sous une tente, avec nos amis les gitans, n'est-ce pas, assis sur des chaises de camping, et avec un petit folklore, bien sûr, bien de chez eux. Mais sinon, c'était la même chose, il y avait des chants, il y avait des témoignages, et il y avait le message. Et croyez-vous, eh bien, dans cette soirée, d'un seul coup, j'ai découvert que j'avais absolument besoin de Jésus. Parce que, comme cet homme l'exprime ici, d'un seul coup, en entendant cette parole de Dieu, eh bien, j'ai pris conscience que j'étais perdu. Et vous savez, c'est terrible quand vous pensez que tout va bien et que d'un seul coup, vous découvrez que vous êtes perdu. Ça arrive de temps en temps, et je suppose que dans cette semaine qui vient, ça va arriver à bien des Français, parce qu'ils ont pris un rendez-vous chez le médecin depuis un certain temps, et puis cette semaine, ils vont aller voir le médecin, peut-être pour retirer des résultats d'analyse ou je ne sais quoi d'autre, ou en tout cas simplement peut-être pour une visite de contrôle, comme ça nous arrive parfois. Et puis, sûrement que parmi tous ces gens qui vont le faire cette semaine qui vient, il y en a qui vont apprendre que peut-être il n'y a plus rien à faire pour eux. Dernièrement, nous avons dans notre église à Rezé un monsieur qui faisait une visite comme cela, et puis le médecin lui a dit de but en blanc, comme cela, sa femme était là aussi à côté d'eux, il a dit: monsieur, je suis désolé, mais vous avez une maladie grave qu'on ne peut rien faire pour vous, on ne connaît pas comment guérir cette maladie, et vous en avez plus que pour 3 ans de vie. Vous imaginez, vous, un médecin qui vous dit cela, comme cela, hein, brutalement, vous n'avez plus que 3 ans à vivre. Alors je vous laisse imaginer par où est passé, bien sûr, ce monsieur avec sa femme, hein, et surtout sa femme, parce que je crois que dans l'histoire, c'est plutôt elle qui est travaillée par cette histoire. Mais c'est pour dire qu'il peut arriver des moments dans notre vie où d'un seul coup, on prend conscience d'une réalité qu'on ne connaissait pas auparavant. Et il faut bien sûr l'assumer. Et souvent, quand ça arrive dans notre vie, ou la perte d'un être cher, ou quelqu'un comme cela qui s'en va, eh bien, on a l'impression que tout s'écroule, que c'est un peu comme disait David ici, j'étais complètement par terre, mes ennemis se réjouissaient déjà à mon sujet. Dans un autre psaume, on voit qu'il y a parfois des ennemis dans l'ombre, on ne les voit pas forcément, et les ennemis, il ne faut pas toujours voir chez les hommes, n'est-ce pas, nos ennemis, mais la Bible nous dit que dans le monde invisible, qui nous côtoie, que dans lequel on ne vit pas, mais qui est là, qui est réel, il y a aussi des êtres, des esprits méchants, qui aussi sont comme des ennemis, n'est-ce pas ? Et quand ils voient que, eh bien, ça ne va pas chez nous, ils se frottent les mains, ils se réjouissent. Et David était conscient de tout cela, et il dira à Dieu dans cette circonstance: tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Et ça, c'est déjà un premier point que j'aimerais vous dire cet après-midi, si vous passez par un moment difficile, un soir, comme un peu nos soirs d'hiver. On n'aime pas, vous voyez, hein, moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on n'aime pas trop cette période dans laquelle on entre là, à partir du mois de novembre, hein, fin octobre, quand les jours raccourcissent, le soir tombe très vite, et souvent, en plus, ce sont des journées de pluie. Hein, et on imagine, n'est-ce pas, ces soirs où des gens bien fatigués par la journée de travail rentrent chez eux, il fait nuit, il fait froid, il pleut, on est fatigué, hein. Voilà, le soir, ça peut représenter cela pour nous. Et vous avez remarqué que David dit dans ce psaume: le soir arrivent les pleurs, parce que, eh bien, imaginons que c'est un soir comme cela, et vous arrivez chez vous, et arrivant chez vous, vous apprenez là une mauvaise nouvelle en plus, hein, qui s'ajoute à tout ce qu'il y a. Alors, on comprend que beaucoup de gens, même dans nos pays, qui pourtant sont des pays où on vit bien, puisque le monde entier nous envie, n'est-ce pas, notre niveau de vie, nos pays, chaque année, c'est le pays qui est le plus visité pratiquement dans le monde, en France, hein. C'est dire qu'on nous envie ce pays. Mais je remarque que ceux qui vivent dans le pays, eh bien, eux peuvent vivre sous la dépression, dans l'angoisse, dans les pleurs, dans les larmes. Et on peut imaginer qu'effectivement, ce que David a vécu, eh bien, aujourd'hui, beaucoup peuvent le comprendre. Le soir arrivent les pleurs. Heureusement, le texte ne s'arrête pas là, parce qu'il ajoute: et le matin, l'allégresse. Pourtant, qu'est-ce qui s'est passé entre un soir et un matin ? La plupart du temps, on a dormi. Hein? Et surtout ceux qui connaissent Dieu, la Bible dit que Dieu peut donner à ceux qui dorment comme cela et qui se confient le soir, n'est-ce pas, en Dieu, qui crient à Dieu alors que peut-être ils sont justement dans une phase de difficulté, d'épreuve, et qu'avant de dormir, ils vont se confier en Dieu. J'ai crié à l'Éternel, dit David. Eh bien, pendant cette nuit qu'ils vont passer, va se produire quelque chose. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Savez-vous que pendant que vous dormez, Dieu continue d'agir ? On l'a entendu tout à l'heure, il ne sommeille pas Dieu. Dieu n'a pas besoin de prendre du repos comme nous on en a besoin. Et c'est bien quand on peut se reposer, hein, parce qu'il y a aussi des gens qui ont du mal à se reposer la nuit. et qui vont être poursuivis même pendant cette nuit par tous ces soucis, ces difficultés, cette angoisse, ces pleurs peuvent durer un certain temps comme cela aussi. Mais si on se confie en Dieu, si comme David qui connaissait bien sûr Dieu, et c'est pour ça que c'est important de connaître Dieu, si on peut crier alors vers Dieu, eh bien il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Quand vous criez vers Dieu, il se passe toujours quelque chose, même si vous ne le voyez pas tout de suite, parce qu'il y a des moments où Dieu fait son œuvre avec le temps. Tout à l'heure, on a entendu une jeune fille, n'est-ce pas, nous rendre témoignage qu'effectivement, il y a eu une période où elle n'a pas forcément compris, mais il y a eu un temps aussi où elle a vu la gloire de Dieu. Et cet après-midi, j'aimerais vous encourager à vraiment vous confier dans le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a créé ce monde dans lequel nous vivons, qui nous a créé aussi, à lui faire confiance, parce que quand vous allez crier vers lui, ça va être une marque aussi de confiance, de foi. Souvent les gens disent « mais moi j'ai pas la foi », ou alors ils disent « je l'ai perdue ». Pourtant, la foi, vous savez, c'est un élément dont nous sommes dotés dès le départ, dès notre naissance. Nous avons notre potentiel de foi. Et souvent quand les gens disent « ils n'ont pas la foi », il devrait simplement dire qu'ils refusent, d'avoir la foi en Dieu, ce qui est différent. Parce que la foi, ils la manifestent tous les jours. Quand ils vont par exemple prendre leur petit bibi pour ouvrir leur portière de voiture, n'est-ce pas, ils ont la foi que quand ils vont appuyer dessus, la voiture va s'ouvrir. Vous êtes d'accord? Et quand est-ce qu'ils sont surpris? C'est pas quand la voiture s'ouvre. Mais c'est quand elle ne s'ouvre pas. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas normal. Hein? Donc, on voit bien qu'on exerce la foi. Si vous vous êtes assis tout à l'heure, je suppose, vous n'avez pas d'abord testé, voir si la chaise tenait. Mais vous vous êtes assis franco. Hein? Parce que vous aviez la foi que la chaise était assez solide pour vous tenir. Et il y a plein de choses comme cela que nous faisons par la foi, sans nous poser de problème, ni de questions, ni de remettre en question des choses. Même, je dirais, dans le domaine de la connaissance et de ce qu'on a appris, je suppose que quand vous étiez à l'école et qu'on vous apprenait l'existence de Charlemagne ou de Napoléon, que vous n'avez pas, n'est-ce pas, levé la main vers le professeur pour dire « Vous êtes sûr que Charlemagne, il a bien existé ? Quelle preuve on a ?» Non, on n'a jamais entendu un élève poser ce genre de questions à un professeur. On croit, n'est-ce pas, que ce qu'on nous dit est vrai. Et pourquoi alors, quand il s'agit de Dieu, d'un seul coup, on devient suspicieux, on dit « Ah ben non, moi je ne crois pas, et puis il faut vérifier, etc. » Pourquoi, justement, quand il s'agit de ce Créateur, dont la présence se manifeste partout dans la création, pourquoi est-ce que d'un seul coup, on devient suspicieux et on devient un petit peu chipoteur pour dire « Mais est-ce que vraiment Dieu existe ? Et vous êtes sûr que Dieu a dit cela ? Et vous êtes sûr que Jésus, c'est bien le Fils de Dieu ?» etc. etc. C'est parce que là, il y a quelque part un refus de l'homme, et ça manifeste tout simplement son péché, qui est en rébellion contre la notion même de son Créateur. Alors, il ne faut pas s'étonner, bien sûr, qu'on n'ait pas la foi, mais si on connaît Dieu, si on apprend à le connaître, eh bien, au moment où on en a besoin, on va crier vers lui sans même se poser de questions, sans même se dire « est-ce que je fais bien de parler avec Dieu ?» On va me prendre pour un fou si je parle tout seul comme cela. Non, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle si vous parlez à Dieu, parce que Dieu existe, il est vivant, il est plus réel que ce que là, parfois les gens, vous savez, touchent pour quelque part se rassurer. Je touche du bois, comme ils disent. Mais vous savez que ce bois-là, en fait, ce n'est pas grand-chose. Hein. C'est juste une réalité que vous avez dans votre monde à vous, que vous pouvez percevoir comme cela, mais en fait, c'est moins évident que la présence même de Dieu. Parce que la Bible dit « la terre et le ciel passeront, mais Dieu restera toujours là, lui ». C'est-à-dire, même ce qui nous paraît solide, un jour disparaîtra, mais Dieu sera toujours là. Donc si vous êtes capable de toucher de bois, eh bien, touchez donc le Seigneur et parlez-lui ce soir. Criez vers lui votre tristesse, votre détresse, votre problème, quel qu'il soit. Quand on crie vers l'Éternel, la Bible dit « quand un malheureux crie, Dieu l'entend et il le délivre de toutes ses détresses ». Et c'est ce que David témoigne, il dit « j'ai crié à l'Éternel, j'ai crié à toi et tu m'as guéri ». Dieu veut vous guérir, pas forcément dans le corps, parce que quelqu'un dira, ben moi ça va, je suis en bonne santé, mais il veut vous guérir intérieurement. Il veut vous guérir de toutes ces blessures que vous avez accumulées au fil du temps. Il veut vous guérir de votre sentiment d'échec. Il veut vous guérir de tout ce qui est profondément enfoui au fond de votre cœur parce que ça vous a fait souffrir. Sachez qu'on a beau l'enfouir, ça ne règle pas le problème. Mais il y a besoin d'une guérison. Quand on a un problème, n'est-ce pas, dans le corps, ça ne sert à rien d'essayer de le cacher. Ce qu'il faut, c'est le guérir. Et pour le guérir, parfois, il faut ouvrir la plaie, soigner, n'est-ce pas, mettre ce qu'il faut dessus. Et alors, ensuite, ça peut guérir. Eh bien, crier à Dieu, c'est la façon de guérir notre âme. Vous pouvez, bien sûr, aller voir aussi des psychiatres, des psychologues, toutes sortes de spécialistes modernes d'aujourd'hui, mais ils n'ont pas le pouvoir de vous guérir. Ils peuvent simplement vous calmer un peu, mais ils ne peuvent pas vous guérir. Un seul peut vous guérir parfaitement intérieurement, c'est le Dieu Tout-Puissant, celui qui est capable de lire jusqu'au fond de nos cœurs et qui, par son esprit, peut opérer nos cœurs, peut opérer ce qui n'est pas tangible, ce qu'on ne peut pas ouvrir avec un scalpel. Hein, si vous allez voir un chirurgien, il peut vous ouvrir le ventre, il peut vous ouvrir tout votre corps, il peut faire des choses extraordinaires. D'ailleurs, je suis toujours émerveillé de voir la science, n'est-ce pas, de nos chirurgiens aujourd'hui, de quoi ils sont capables. Mais si vous lui venez vers un chirurgien pour lui dire, voilà, j'aurais besoin que vous opériez mon âme, hein, il va vous regarder, il va peut-être appeler son confrère, le psychiatre, pour dire, là, j'ai un client pour toi. Il faut tout de suite que tu le mettes bien au chaud, là, parce que ça ne va pas chez lui. Hein. Parce que là, une âme, comment opérer, comment agir, c'est quelque chose qu'on ne peut pas serrer dans nos mains, cela. Mais Dieu, lui, il sait comment le faire. Et par sa parole, la Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est comme un scalpel, n'est-ce pas ? C'est comme une épée à double tranchant. Elle est capable d'aller jusqu'au fond du cœur, entre l'âme et l'esprit, à la jointure, entre les moelles, etc. Et là, elle peut opérer cette guérison. Et je crois que cet après-midi, si vous êtes entré avec un besoin intérieur, eh bien Dieu est en train de faire ce travail. Et si vous criez à lui, il va aussi vous guérir. Dans le nom de Jésus, nous avons été guéris, dira l'apôtre Pierre. Et cet après-midi, nous pourrions le dire, ceux qui ont expérimenté cette délivrance, Dieu nous a guéris dans le nom de Jésus. Dieu nous a libérés dans le nom de Jésus, son Fils. Il m'a guéri physiquement, comme j'aime le dire, sans même que je lui demande, mais surtout, il m'a guéri d'un gros problème que j'avais, c'était l'orgueil. Je croyais tout savoir, et il y a une chose que je ne savais pas, qui pourtant était la chose la plus importante, c'est que j'étais perdu. J'étais aux portes du séjour des morts, et je ne le savais pas. Et croyez-moi, quand Dieu me l'a montré ce soir-là, eh bien, je n'ai pas fait le fier très longtemps. Bon, ça a duré quand même quelques minutes, mais très rapidement, j'ai levé ma main. Quand le prédicateur a dit « Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui a besoin de Jésus ?» hein, alors j'ai vu que quelques-uns levaient leurs mains, moi j'ai attendu encore un peu. Et puis, quand il a dit une deuxième fois « Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ?» ça sera le dernier appel. J'ai dit « Là, il ne faut pas que je rate le train. » J'ai levé ma main. Et en levant ma main, j'ai senti quelque chose se passer en moi. Je dis bien j'ai senti parce que je ne connaissais rien de la Bible, je ne connaissais rien de Dieu, pas grand-chose, mais j'ai senti que Dieu venait de répondre à ma prière sans que même je comprenne bien ce qui se passait. Et Dieu, effectivement, a fait que ma vie qui était là aux portes de la mort ce jour-là, eh bien, je suis reparti dans l'allégresse, sans connaître bien le pourquoi, et j'étais comme, n'est-ce pas, un petit oiseau qui volait là sur la moto en repartant chez nous, parce que Dieu était intervenu dans mon cœur. Oui, notre vie est souvent comme ce que dit le psalmiste ici, ça commence par un soir. Notre vie avec Dieu. Si on faisait un sondage aujourd'hui, n'est-ce pas, dans cet auditoire et dans la plupart des auditoires des églises évangéliques de France, on se rendrait compte que la plupart d'entre nous, nous sommes venus à la connaissance de Dieu, au salut, parce qu'il y a eu à un moment donné dans notre vie un drame, une souffrance, des épreuves, des difficultés. Ça a commencé donc par un soir de larmes, un soir de pleurs. Eh bien, il ne faut pas s'en étonner parce que la Bible nous dit que Dieu, quand il crée les choses, il le fait comme cela. Si vous allez dans le livre de la Genèse, vous allez vous rendre compte, dans le chapitre 1er, que lorsque il nous est raconté comment Dieu a créé, n'est-ce pas, notre terre et l'univers dans lequel nous vivons, il est parlé par 6 fois, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour, puis le deuxième jour, puis le troisième jour. Et à chaque fois, n'est-ce pas, que Dieu va créer quelque chose, ça commence par un soir. Hein, en général, nous, quand on dit il y a eu un jour, on commence plutôt dans l'inverse, parce qu'on est dans un autre monde. On dit il y a eu un matin, puis il y a eu un soir, et ça a été une journée bien chargée. C'est comme ça qu'on parle, nous. Hein. Mais quand Dieu parle, lui, il dit il y a eu un soir. Et le soir, c'est quoi ? Eh bien, le soir, justement, c'est ce fameux soir dont je parlais tout à l'heure, où on n'y voit pas grand-chose, il fait nuit, c'est l'embryon de la création de Dieu, c'est le commencement de cette période où Dieu va faire sortir de rien quelque chose, où Dieu va faire sortir d'un monde qui est encore ténébreux, comme nous le lisons au début de la Genèse, il y avait là des ténèbres à la surface, n'est-ce pas, de l'abîme, et puis d'un seul coup, Dieu intervient, et de cette nuit va jaillir une lumière. Et à chaque fois, Dieu va faire comme cela. Alors c'est pour ça déjà que ceux qui interprètent ces textes en disant « Oui, mais c'est de la folie, vous croyez que Dieu a fait le monde en une journée ?» Hein, il fut un jour. C'est bien sûr mal comprendre la période de Dieu, de création. Dieu a créé les choses et un jour pour Dieu c'est comme 1000 ans, dit la Bible. Ça veut dire que derrière ce commencement de création, n'est-ce pas, qui commence un soir où il semble que rien de bon ne peut sortir de ce moment-là, de ce que Dieu prend là, jusqu'au moment où il y a le matin, où on peut chanter d'allégresse parce que maintenant on voit bien les choses. Hein, la différence entre le soir et le matin, c'est que le matin, le jour se lève, le soleil apparaît et on voit clair. C'est pourquoi on peut chanter d'allégresse, parce que maintenant on voit, ah voilà ce que tu étais en train de faire. C'est vrai que quand c'était le soir, j'y voyais rien. Mais maintenant que c'est le matin, je comprends mieux qu'est-ce que tu cherchais à faire. Et c'est ce qui va se passer au fil donc de ces périodes de création de Dieu qui vont permettre à notre planète de pouvoir accueillir la vie humaine. Parce que la dernière phase de création que Dieu va mettre en place, c'est la création de l'être humain. C'est, n'est-ce pas, le 6e jour lorsque l'être humain va apparaître sur la terre. Mais pour qu'il apparaisse sur la terre, il a fallu que Dieu prépare toutes sortes de choses. Que cette terre qui était informe et vide puisse d'abord être remplie d'eau, puis ensuite que l'eau s'amasse, qu'il y ait la terre qui apparaisse, puis ensuite qu'il y ait de la verdure, puis ensuite qu'il y ait des animaux, et enfin Dieu maintenant peut faire venir l'homme, parce qu'il a déjà tout préparé pour la venue de l'homme. Dieu fait bien les choses, vous savez. Il suffit de regarder un homme, une femme, aujourd'hui on peut dire, mais c'est formidable. Hein, tout ce que l'homme essaye d'inventer, c'est toujours une pâle figure, un pâle reflet de ce que Dieu a fait, lui. Quand Dieu fait les choses, remarquez, il ne fait jamais les choses de la même façon. Il y a une diversité extraordinaire. Quand les hommes font quelque chose, c'est toujours des clones. Hein. On refait toujours pareil. On se copie les uns les autres. Mais lorsque Dieu fait les choses, il fait les choses différemment. Et nous sommes tous différents. Moi, je vous regarde. Hein, on ne peut pas confondre. Hein. On est tous différents. Tant dans la coiffure, ouais, il y a celui qui est un peu chauve là, madame qui est un petit peu plus chevelue, voilà, il y a des couleurs noires, café au lait, plutôt pâle, d'autres, certains vraiment blancs, voilà, il y a des blonds, il y a des châtains, il y a des Et alors les traits, c'est très difficile d'ailleurs, c'est imaginable tout ce qu'on peut avoir comme différence. Et pourtant, on fait tous partie de la même espèce, l'espèce des hommes, des êtres humains. Et Dieu a fait cela aussi dans un temps qui nous échappe. Il y a eu un soir où il a commencé cette création et il y a eu un matin où cette création était là, maintenant visible. Et la Bible dit qu'effectivement, quand on regarde la création de Dieu, toute cette création témoigne du Créateur. Et pour celui qui est honnête, il ne peut que s'écrier, n'est-ce pas ? Oui, gloire à toi, Seigneur. Parce que qui a pu créer une chose comme celle-là sinon toi ? Et c'est ce que dit la Bible. Un jour, tous les habitants de la terre rendront gloire au Créateur parce qu'ils reconnaîtront effectivement la grandeur et la majesté de celui qui est à l'origine de toutes ces choses que nous voyons. Ce que pudiquement certains appellent la nature a bien fait les choses. Nous nous disons, ce n'est pas la nature qui s'est inventée elle-même, mais c'est Dieu, le Créateur, qui a pensé ces choses, qui les a conçues de toute éternité. Avant même que le temps n'existe, Dieu y a pensé, et puis à un moment donné, il a commencé son travail. Et ce que j'aime bien avec Dieu, c'est qu'il prend son temps. Vous savez, Dieu n'est pas comme nos concitoyens d'aujourd'hui, toujours pressés, jamais le temps, etc. Non. Alors là, si vous voulez amener Dieu avec vous dans cette vie où il n'y a plus, n'est-ce pas, de possibilité même de respirer, n'y comptez pas, Dieu prend son temps. Et ces périodes-là où il est dit il y eut un jour, ça a pu prendre des milliers d'années. Je ne sais pas combien. Même les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux. Hein, entre ceux qui disent ça fait des milliards d'années, d'autres qui disent des millions. Déjà, entre un milliard et un million, il y a une grande différence. Hein. Et puis ceux qui disent simplement dizaines de milliers d'années, bon, alors, allez savoir. Hein. Peu importe, de toute façon. Peu importe. Dieu a pris le temps qu'il fallait. Et de la même façon qu'avec nous, il prend le temps qu'il faut aussi pour nous amener à une nouvelle œuvre, une nouvelle création que la Bible appelle la nouvelle naissance. Et ça aussi, ça se passe un peu comme cela. Ça commence par un soir, on apprend une mauvaise nouvelle, où on se sent malheureux, on apprend qu'on a perdu son travail, qu'on a perdu un être cher, on apprend qu'on est atteint d'un cancer, on apprend que, voilà, il y a des choses comme ça dramatiques dans notre vie. Et d'un seul coup, il se passe quelque chose de terrible, des larmes, des tristesses, c'est le monde qui est abattu. On avait tout un tas de projets, et d'un seul coup, en quelques minutes, parce qu'on a appris cette mauvaise nouvelle, tout est par terre. Le soir arrivent les pleurs. Et souvent, quand ça arrive, on est incapable de discerner, bien sûr, que ce n'est pas un soir sans lendemain. On est incapable de discerner que c'est pourtant cela que Dieu va utiliser pour nous amener à une nouvelle naissance. Je suppose que vous avez tous vu déjà un papillon. Et il y a dans le monde des papillons, n'est-ce pas, de beaux papillons que d'ailleurs certains collectionnent. Mais est-ce que vous avez déjà réfléchi là où est passé le papillon pour devenir un beau papillon ? Pour lui aussi, il y a eu un soir. Un soir où, alors qu'il était à l'époque seulement qu'une chenille, cette chenille a commencé à s'envelopper dans un cocon, n'est-ce pas, enfermé. Et là, cette chenille va rester enfermée, emprisonnée, pendant des jours et des jours. Vous voyez ? On a l'impression que c'est fini. On a l'impression que c'est la mort. Mais non, c'est pas la mort. Parce que après ce soir où on ne va plus entendre parler de cette chenille, où elle va devenir pratiquement invisible parce qu'elle sera dans ce cocon, viendra un matin où, d'un seul coup, à la surprise générale, ce n'est plus une chenille qui sort de ce cocon, mais c'est un beau papillon qui, en quelques instants, en quelques jours, il va devenir cet animal qu'on connaît bien qui vole. Mais imaginez une chenille en train de voler. Ça vous surprendrait, hein ? Tiens, une chenille qui vole. Pourtant, si elle est chenille, peut-être quelque part, à un moment donné, elle se dit, moi je m'imagine à la place de la chenille, peut-être quelque part elle se dit, mais si je pouvais voler comme les papillons, ouais ? Si je pouvais avoir la foi comme vous, pasteur, ça serait formidable. Ben oui, c'est possible de l'avoir. Mais pour l'avoir, pour vivre quelque chose de nouveau, il faudra passer par un moment, une période comme cela, de retour sur soi-même, que la Bible appelle la repentance. La Bible appelle ça la repentance. Repentez-vous, disait Jésus. Si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, vous devez vous repentir et vous devez vous convertir à Dieu et à son plan, à Jésus-Christ. Ah, la repentance, ce n'est pas quelque chose qu'on envisage de gaieté de cœur, mais c'est nécessaire. Sans la repentance, il est impossible de connaître une nouvelle création, de connaître le bonheur, celui auquel on aspire. Quel est l'homme et la femme, depuis son plus jeune âge, qui n'aspire pas à ce bonheur, à cet épanouissement? Tous nous avons ça dans notre cœur, parce que nous sommes issus de Dieu, et nous cherchons ce bonheur. C'est le but que Dieu nous a assigné, que nous puissions trouver enfin la vie éternelle. Un jour, un jeune homme est venu vers Jésus, il avait tout, à vue humaine, il avait tout ce qu'il lui fallait, et pourtant il n'était pas satisfait. Il vient vers Jésus et dit: voilà, j'ai tout observé, les commandements de Dieu, la religion, tout ça, j'ai fait. Mais qu'est-ce qui me manque? Je n'ai pas la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? Voyez-vous, tant qu'on n'a pas cette vie éternelle, on peut nous donner les millions du monde, on peut gagner au loto, on peut faire tout un tas de choses, on peut voyager dans le monde entier, mais on n'est pas heureux. On n'est pas heureux. Nous avons un homme qui vient actuellement à l'église de Rezé depuis un certain temps. Et il apprécie beaucoup de venir écouter l'évangile. C'est un homme qui a voyagé dans le monde entier. Avec tous les miles qu'il a accumulés, il peut vous faire voyager, il peut vous faire au moins 10 fois le tour du monde. Pour vous dire qu'il en a fait des voyages. Mais pourtant, malgré tout cela, il me confiait qu'il sentait qu'il avait besoin de mieux connaître Dieu. Et aussi extraordinaire que c'est, chaque fois qu'il vient écouter l'évangile chez nous, il est tout heureux. Ce n'est pas forcément ses voyages qui l'ont satisfait, mais c'est de découvrir maintenant la foi véritable, la foi en Jésus. Et il est en train de découvrir qui est vraiment Jésus pour lui. Et ça le transporte de joie, d'allégresse. Jésus, c'est celui qui peut nous faire passer de ce soir de pleurs à ce matin d'allégresse. Une phase de transformation que la Bible appelle la nouvelle naissance. Un jour, un homme, Nicodème, viendra vers Jésus, lui dira: « Seigneur, on sait que tu es un grand docteur venu de Dieu, blablabla, blablabla. » Et alors qu'il était mal parti dans son introduction à Jésus, Jésus va lui dire tout simplement: « Nicodème, je sais dont tu as besoin, ça ne sert à rien de discuter comme ça. Voilà, je vais te dire, il faut que tu naisses de nouveau. » Boum. Quelle révélation! Il faut que tu naisses de nouveau, Nicodème. Et comment c'est possible? Eh bien, il faut que tu naisses de l'Esprit Saint. Et Jésus va lui parler de ce qu'il allait faire pour lui. Comment, à un moment donné, il serait mis en croix comme un vulgaire brigand, malfaiteur, afin de payer pour la justice de Dieu ses péchés. Et il lui dira: quiconque croira dans le Fils de Dieu sera sauvé, ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Et on se rend compte que cet homme n'a pas tout de suite compris ce que Jésus lui disait, mais quelque temps plus tard, on verra que parmi les deux hommes qui vont venir demander le corps de Jésus pour le mettre dans le tombeau à Pilate, eh bien, il y avait justement ce brave Nicodème. Il avait fait son cheminement avec Dieu. Cette parole du Christ a fait son chemin. Je ne sais pas pour vous si c'est cet après-midi que vous allez vivre ce changement, cette transformation, mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que vous ne ressortirez pas de ce lieu de la même façon que vous êtes entré. Parce que quand on a entendu l'évangile, quand on a entendu parler de ce que Dieu veut faire, ça fait un travail dans nos cœurs, ça change notre vie et un processus est enclenché. Le mien, ça a duré à peu près une année avant que j'arrive à la nouvelle naissance, entre le moment où la première fois quelqu'un m'a parlé de Jésus et le moment où j'ai reçu Jésus dans ma vie, il s'est écoulé à peu près une année. Vous voyez, une année. C'est peu, c'est beaucoup, ça dépend. Ce qu'on vit, ça dépend comment on le vit. Mais en tout cas, c'était le temps qu'il me fallait personnellement pour passer par cette phase de transformation, de recréation, de mon être intérieur. Il a fallu que je passe par des moments, comme un jour, un homme me disait sur un marché, alors que moi j'aimais bien y aller pour discuter de tout, de la foi, de Dieu, et vous savez, j'étais le gars à poser des questions, hein. J'étais pas le gars qui me satisfaisait simplement avec des slogans tout faits comme ça, « Gros Seigneur Jésus, tu sauras vous sauver ». Ouais. Moi je discutais, je grattais, et derrière la foi que tu dis, à voir qu'est-ce que tu as réellement, etc. Et un jour, le gars il me dit, « Est-ce que tu sais que t'es pécheur ?» Alors ça m'a arrêté dans la discussion qu'on avait, et puis j'ai réfléchi un petit moment, puis à un moment donné j'ai dit, et là je sentais que si je disais non, j'étais pas honnête avec moi-même. Alors j'ai dit, ben oui, je reconnais que je suis un pécheur. Alors il m'a tendu la main dans un acte de foi, et il m'a dit, bien, je sais que bientôt tu seras chrétien comme moi. Moi je l'ai regardé, j'ai haussé les épaules, bon, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais enfin bon, pourquoi pas si tu le dis. Et effectivement, quelques mois après cette rencontre, peut-être 2 ou 3 mois après, eh bien, je me convertissais dans une soirée comme celle-ci en écoutant l'Évangile. Il y a des phases de transformation par lesquelles nous passons. Et je crois que dans ces phases, il y a une phase importante qui est de reconnaître que nous sommes des pécheurs. Et la deuxième phase importante, c'est reconnaître qu'on est perdu. Qu'on est perdu. Si Dieu n'intervient pas, je suis perdu. Et quand j'ai compris cela ce soir-là, croyez-moi, je ne suis pas resté longtemps dans cet état, mais j'ai crié vers Jésus, j'ai levé ma main, et le Seigneur est venu me sauver. Le matin arrive l'allégresse. Oui, le matin, c'est quand justement on est parvenu au salut, quand on est parvenu à la délivrance, et que l'on peut dire merci Seigneur. Je t'ai accusé injustement de m'avoir oublié, d'en avoir contre moi, parce que, voilà, je ne comprenais pas cette épreuve, mais je reconnais maintenant que cette épreuve, tu l'as utilisée pour m'amener au salut, pour m'amener à la nouvelle naissance, pour m'amener à connaître ton amour d'une meilleure façon. Et je dirais que dans ce domaine, Dieu n'a jamais fini. Et ça, je le dis pour mes amis chrétiens, qui sont déjà passés par la nouvelle naissance, sachez qu'il y a encore des choses que Dieu veut développer, veut faire dans vos vies, comme dans la mienne. Et souvent, j'ai remarqué, quand Dieu veut faire quelque chose comme ça dans nos vies, dans notre cœur, eh bien, ça commence toujours par un soir. Un soir de larmes, un soir où peut-être on rentre découragé, on ne sait plus trop où on en est. Voilà. Et si c'est le cas, eh bien, mettez votre confiance dans le Seigneur, criez à lui et laissez-le faire cette transformation qu'il veut opérer dans votre cœur. Et vous verrez que, après le soir, vient toujours le matin d'allégresse. Et quand le matin est là, alors vous dites, vous regardez en arrière, et vous dites, comme le papillon, ça valait la peine quand même de passer par tout cela parce que maintenant je vole. C'est plus un rêve, c'est une réalité. Maintenant, j'ai triomphé de cette mauvaise habitude dans ma vie, j'ai triomphé de ce problème que j'avais, de ce sale caractère qui me collait à la peau. J'arrivais pas à me débarrasser de ce vieil homme, terrible ça, hein, vieil homme là, qui veut toujours s'accrocher. Ben, si tu pries le Seigneur de t'en débarrasser, il va le faire, mais parfois il va le faire à travers une phase d'épreuve. Dieu nous sanctifie à travers les épreuves. Alors il y a un soir, qui est un soir de larmes, un soir de pleurs, un soir peut-être de gémissements, mais quand on se confie en Dieu, qu'on garde confiance en Dieu, comme David l'a fait, eh bien, il y a aussi le matin d'allégresse. Et alors, on fait comme David, on dit « Je t'exalte, ô Éternel, parce que tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. » Et j'aimerais vous dire, vous pouvez être sûr que Dieu n'est pas contre vous. Dieu est avec vous, parce que vous êtes sa création. Vous êtes ses créatures. Et donc vous pouvez compter sur l'action de Dieu dans votre vie. Dieu ne laissera pas vos ennemis se réjouir à votre sujet, mais il va agir dans votre vie, afin que vous puissiez dire un jour, « Je t'exalte Seigneur, parce que j'étais comme ceci, j'étais comme cela. Tu es venu à moi, tu m'as délivré, tu m'as relevé, tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent, Et si le diable, n'est-ce pas, vient essayer de vous dire des choses, eh bien, rappelez-lui qu'un jour, lui, il va être jeté dans les temps de feu, dans la géhenne, parce que ça, c'est sûr, c'est déjà marqué dans la parole de Dieu, et ainsi il vous laissera tranquille. Mais vous, par contre, croyez que vous êtes destinés à connaître une éternité de gloire avec Dieu, dans un lieu, dans une demeure qui n'a rien à voir avec cette terre, et qui pourtant, parfois, quand on voit certains paysages, on dit, oh, combien j'aimerais bien être là-bas, là, sur cette île, je ne sais plus comment, là, avec du sable blanc, soleil, n'est-ce pas, 35 degrés à l'ombre, petite brise bien fraîche, les palmiers, une eau, on voit nos pieds, c'est formidable, hein. Ma femme, elle, quand elle va au bord de la mer ici, ce qui ne lui plaît pas, c'est qu'elle ne voit jamais ses pieds quand elle les met dans l'eau. Parce que l'eau, elle n'est pas très claire, vous voyez. Mais là, c'est, ouais, c'est formidable. Mais c'est rien à côté de ce qu'on va connaître dans ce royaume des cieux que Dieu est en train de nous préparer. Jésus a dit, je reviendrai, et ceux qui m'attendent, je les prendrai, et ils seront avec moi. Et là, je peux vous dire, ça va être extraordinaire. Est-ce que vous avez déjà vu un beau lever de soleil ? Moi, ça m'est arrivé de le voir en avion, au-dessus des nuages. C'est ça l'avantage, c'est que quand on est en avion, on peut voir le lever du soleil parce qu'il n'y a pas les nuages. Ici, des fois, il y a des levées de soleil qu'on ne voit jamais même. Hein. On ne le voit même pas se lever ni se coucher. Mais quand vous êtes là-haut, vous voyez, et alors c'est extraordinaire. Un lever de soleil, n'est-ce pas, au-dessus des nuages comme ça. C'est un spectacle grandiose qui nous laisse un instant dans le silence. On observe, on regarde, c'est extraordinaire. Et on voit vraiment à travers ce lever de soleil la majesté de l'Éternel. Comme, vous savez, Dieu qui se lève. D'ailleurs, dans un psaume, un psalmiste a été impressionné par ça et il reprend cette expression. Hein, Dieu se lève vraiment comme ce soleil qui fait sa course ensuite dans le ciel. Eh bien, je peux vous dire que quand l'étoile du matin va se lever, quand le soleil de justice va apparaître pour ceux qui l'attendent, quand Jésus va revenir du haut du ciel pour chercher ceux qui lui appartiennent, son Église, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Plus grand, 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, 1 million de fois, plus grand que ce que nous avons pu observer sur cette terre. Et pourtant, il y a de belles choses sur la terre, mais croyez-moi, quand Jésus va apparaître, ça va être quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, si vous lisez la Bible, vous verrez que la Bible se termine avec cette parole qui se trouve dans l'Apocalypse au chapitre 22. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Et alors, il est dit ensuite « Amen !» Ça, c'est pour ceux qui commencent à s'endormir, hein. Amen, viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Voyez-vous ici, la Bible se termine sur ce cri extraordinaire. Oui Seigneur, Amen. Viens, viens Jésus. Et toute la création, nous dit la Bible, soupire après cette venue du Maître de l'univers, du Seigneur Jésus, qui un jour est venu sur notre terre comme un simple homme, qui a donné sa vie pour nous, mais que Dieu a ressuscité des morts et qu'il a fait asseoir à sa droite maintenant, lui donnant tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Ce Jésus reviendra une deuxième fois pour manifester cette gloire qui n'appartient pas à ce monde, qui est d'ailleurs. Et si vous désirez vous aussi la voir, cette gloire, eh bien, croyez simplement que c'est vrai, ce que je viens de vous dire. Et si vous le croyez, vous le vivrez. Dès maintenant, vous enclencherez quelque chose dans votre vie et vous permettrez à Dieu de vous amener dans son plan éternel. Nous allons un instant prier le Seigneur. Et si quelqu'un cet après-midi réalise qu'il a besoin de Dieu, criez donc vers lui et dites, Seigneur, sauve-moi. Délivre-moi, guéris-moi. Même si je ne comprends pas ce qui se passe, si ce que cet homme a dit est vrai, si ce que je suis en train de vivre, c'est simplement un soir, mais que tu as prévu aussi derrière ce soir toute une phase de transformation, un changement pour que je vive un matin d'allégresse, alors oui Seigneur, je veux bien te confier ma vie, je veux bien te faire confiance. Dites-le dans votre cœur maintenant au Seigneur. Et Dieu qui entend les prières les plus secrètes va comprendre et va répondre à votre prière. Seigneur, merci.